2023 et 2024 ont été des années marquées par des précipitations abondantes sur les Hauts-de-France, provoquant des inondations records, notamment dans le Pas-de-Calais. Début 2025, ce même département est en alerte sécheresse agricole, symptôme météorologique de l'évolution climatique aux conséquences amplifiées par les modifications paysagères. Gabriel Bertin est maire de la commune de Rivière, dans l'Arrajois. Sa commune, d'un millier d'habitants, est traversée par un cours d'eau, le Crinchon. Il dénonce la disparition des prairies, l'intensification des cultures agricoles qui mènent à l'appauvrissement des sols et à leur imperméabilisation, renforçant le risque d'inondation. Gabriel Bertin.
Et la problématique de l'agriculture et des agriculteurs, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et finalement, nous, à Rivière, par exemple, on a un grand territoire. On a 1200 hectares autour du village. Et on a de plus en plus des agriculteurs qui viennent de très loin cultiver. On a de moins en moins d'agriculteurs du pays, du village.
Hein, c'est quoi de très loin cultive.
Ben, de très loin, ça fait 40 kilomètres. Voilà. Et après, voilà, c'est la tendance générale. Hein. Et finalement, les petites fermes qui s'arrêtent, on voit bien, sont reprises à prix d'or, hein, par des plus grosses structures agricoles, hein, qui là, n'hésitent pas à faire des kilomètres, hein, pour, avec leurs gros engins, pour venir cultiver.
Ici, cultiver sur autre chose que ce qui était fait avant.
Alors l'évolution qui est constatée, mais pas que autour d'une autre commune, hein, c'est quelque chose qui est constaté dans les Hauts-de-France. Hein. On a des grandes cultures, on a essentiellement de la grande culture, hein, plutôt intensive, hein, voilà, plutôt qui utilise quand même pas mal d'intrants, hein, en engrais, etc. Et toute cette démarche cumulée d'année en année, effectivement, appauvrit la capacité du sol à être résilient, hein, donc, et même à s'auto-fertiliser, hein, voilà, du fait de la disparition du monde vivant. On voit quand même une aggravation du fait de l'arrivée de façon plus massive de types de cultures, comme la pomme de terre, hein, plutôt pour destinée à l'industrie. Ça, c'est une grande inquiétude pour les Hauts-de-France. On le voit déjà autour de nos villages. On le voit également dans la Vénois, hein, parce que là, la Vénois, avec le bocage, qui est une pépite aussi nature et à préserver, mais qui est déjà impactée par cette pression de l'arrivée de ce type de culture. On a des grosses industries qui se sont implantées dans la région et qui ont demandé très vite plus de 50 000 hectares de pommes de terre dans les Hauts-de-France, hein, à passer une ancienne culture à ce type de culture, destinée plutôt vers des marchés mondiaux, hein, et non pas vers la nourriture pour nous, pour la France. Hein. Donc ça, c'est très inquiétant. Et surtout, moi, très concrètement, autour du village, pour revenir à notre village, c'est la disparition progressive des prairies autour de notre village, mais de tous les villages de notre région. Et ça disparaît à grande vitesse. C'est impact sur le paysage, impact sur la biodiversité, la disparition des prairies, du bocage autour de nos campagnes. On est moins protégé des coulées de boue et des risques d'inondation. Enfin bref, il y a tout un tas de... Et effectivement, une prairie, ça c'est un bel exemple, hein, c'est une capacité d'éponge remarquable, hein, et une capacité de filtration de l'eau et d'alimentation des nymphes phréatiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des coulées de boue et des inondations dont on parle. Mais une des causes majeures de ces problématiques coulées de boue et inondations, là pour les cas extrêmes qu'on a eu dans le Pas-de-Calais, la cause majeure vient de la perte de la capacité du sol dans les champs cultivés de façon intensive à capter l'eau. Donc l'ADEME, l'Agence de la maîtrise de l'énergie, avait confirmé depuis quand même pas mal d'années un sol sans vie. Bon, on prend des lombrics, hein, bien sûr, parce que pour que tout le monde comprenne, mais il n'y a pas que les lombrics, évidemment, dans un sol qui vit normalement. Un sol qui n'a plus ce type, par exemple, les lombrics, a perdu 90% de sa capacité à absorber l'eau. Donc vous imaginez, d'une époque, à un moment donné, un sol vivant, il capte 100 litres. Aujourd'hui, il ne capte plus que 10 litres. Voilà. Donc ce qui veut dire que les fameux 90 litres qui restent sur les 100 litres, ça va où ? Effectivement, ça va prendre de la terre, du limon, et ça va l'entraîner très loin, dans les cours d'eau, dans les vallons, et ça va à la mer. Et d'où, bien sûr, les inondations du Pas-de-Calais, et même des problèmes d'évacuation à la mer qui se posent, évidemment, parce qu'il y a tellement d'eau qui arrive dans les basses vallées.
Vous avez des contacts avec la Chambre d'agriculture ?
Moi, je fais partie de la commission locale de l'eau en tant qu'élu, comme je suis motivé par tout ça. J'ai travaillé sur le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin de la Scarpe, hein, voilà, amont, quand on dit le schéma d'aménagement de la gestion de l'eau sur le bassin versant Scarpe amont. dans lequel il y a notre cours d'eau, le Crachot, hein, qui a été un petit affluent. Et puis, moi, je fais partie aussi du comité de pilotage du plan alimentaire territorial. Vous en avez ici, je pense, dans chacun des territoires, dans les collectivités. Donc, on est en contact avec des gens, des membres de la Chambre d'agriculture. Et à chaque fois que la Chambre d'agriculture organise des rencontres sur le terrain pour parler de la problématique du sol, etc., je vais voir un peu. Voilà. Donc, il y a des superbes choses qui sont mises en avant, effectivement, des beaux exemples. Par contre, ce qui est dit ou les beaux exemples qui sont montrés, on les retrouve pas de toute façon, je dirais, dans la culture en général. Donc il y a une prise de conscience, je pense, forte du côté du monde agricole. Par contre, à la mise en pratique, le changement de cap, d'orientation, en tout cas, on ne le voit pas. On voit plutôt des choses qui vont dans le sens contraire. À l'arrivée de la pomme de terre industrielle, pour nourrir, exemple, l'usine Clairvaux près de Dunkerque, qui va plutôt nourrir 150 pays en frites surgelées, par exemple, des produits. C'est de la malbouffe. Hein. Donc en fait, on fait le Mercosur à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait de la malbouffe qu'on envoie dans le monde entier, et alors que les gens dans ces 150 pays, par exemple, si je prends le cas de Clairvaux, se nourrissent avec leurs produits de leur territoire. Et donc ils vont voir débarquer pour faire du business. Hein. Évidemment, ça fait marcher du business. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, en tant qu'élu, j'interpelle la collectivité en disant dites-moi comment je peux faire, moi, en tant que maire, je n'ai aucun moyen de préserver mes prairies. Elles sont pourtant, au niveau du plan local d'urbanisme de ma commune, indiquées en prairies à préserver. Puis elles vont être détruites. Et par un monde avec lequel on a quand même. On n'a pas d'interconnexion, de discussion facile. Et moi, je suis un défenseur à fond. On est en train de retravailler les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. On devrait faire des PLUA, c'est-à-dire plans locaux d'urbanisme et agricole. Et travailler vraiment la main dans la main. Hein, parce que l'agriculture fait de l'aménagement du territoire, tout comme l'urbanisme, hein, tout comme les élus, etc. Mais quand on détruit une prairie, que moi je ne veux pas détruire pour y mettre des maisons, mais qui va être détruite quand même pour faire un champ de pommes de terre, de céréales, de betteraves, etc. Parce que c'est beaucoup plus rentable, et je comprends, hein, il y a moins d'élevage, etc. Et malgré tout, c'est une destruction. Au niveau de l'aménagement du territoire, c'est surtout, il faut arrêter de faire ça. Quoi. Je pense qu'on doit vraiment travailler beaucoup mieux ensemble. Mais par contre, il faut, à mon avis, l'imposer vis-à-vis avec les lois.
Gabriel Bertin, maire de Rivière, commune du Pas-de-Calais, dans l'Arrajois. Alors, une autre agriculture est-elle possible pour préserver la ressource en eau et maintenir les sols en bonne santé? Michel Delisle est agriculteur dans le Douaisis. Sur ses 85 hectares, entièrement cultivés en bio, il produit des lentilles, des pois chiches, des haricots, des céréales et même des pommes de terre. Michel Delisle.
Il y a des moments où on vit des moments pas simples, surtout en ce moment. J'avoue que la politique actuelle, le marché, hein, faut le dire aussi, hein, fait qu'il y a des moments où on a envie de baisser les bras et de se dire pourquoi on se bat, quoi. Et ça peut se comprendre. Vraiment, c'est énergivore dans le sens émotionnel.
Aujourd'hui, on peut se passer de l'irrigation et attendre ce que donne le ciel en pluie.
Alors, une année comme l'année dernière, oui, largement. Il n'y a pas de souci, j'avais même trop de haricots l'année dernière, voilà, pour information. Cette année, je ne sais pas, j'espère toujours. Là, je fais du haricot vert en frais, par exemple, où on récolte toutes les semaines, on sème toutes les semaines, on récolte toutes les semaines. J'espère ne pas avoir irrigué. Jusque-là, le sol, j'ai de la fraîcheur en profondeur, j'ai travaillé mon sol, j'ai roulé, j'ai fait tout pour conserver la fraîcheur au maximum. Je croise les doigts, j'ai pas envie de monter les tuyaux, je les ai. Mais contrairement à beaucoup de mes voisins, j'ai l'irrigation chez moi, mais c'est une assurance récolte pour moi. C'est pas parce que j'ai la machine dans ma cour que j'ai envie de l'utiliser. Une fois, je m'en souviendrai toujours, j'étais en train de monter l'irrigation, c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et comme tous les jeunes de notre époque, hein, on fait une petite photo, on met sur Facebook, fait chier, faut monter l'irrigation. Un voisin qui a un petit 300 hectares... me met un petit message, si ton métier te plaît pas, t'as qu'à changer. C'était pas le métier qui me plaît pas, c'était juste que ça me faisait chier de sortir l'enrouleur, que le temps ne me permettait pas de faire autrement, et que par obligation, je mettais l'enrouleur.
Ouais. Comment vous gérez cette équation entre ce qui est nécessaire, ce qui est possible, ce qui est raisonnable, et ce qui deviendrait finalement peut-être superflu?
Sur ma ferme, moi personnellement, je regarde la plante, je regarde le sol. Est-ce que la plante est visiblement en manque. S'il y a des signes avant-coureurs qui disent voilà, la planque est en manque et c'est réellement un stress hydrique, c'est-à-dire qu'on commence à voir des petits bouts de feuilles qui se dessèchent, parce que déjà se dessèchent, c'est déjà un signe bien avant-coureur, mais qui commencent à changer un petit peu de couleur, qui sont là, il faut y aller, là, il faut qu'on y aille. Voilà. Sur la pomme de terre, sur les 5 dernières années, je crois que j'ai irrigué une fois un hectare de pommes de terre. Voilà. Haricots verts, c'est un peu plus spécifique. Sur les 5 dernières années, on a irrigué 3 fois. Voilà. Et 3 fois, 3 tours d'eau à 10 mm. Parce que j'ai peut-être aussi la... pas l'envie d'aller irriguer de la pomme de terre par choix aussi. Hein. C'est, voilà, j'ai pas forcément envie de ça. Après, je suis déjà en bio, donc mon rendement va être un chouïa moindre que le conventionnel. Je fais aussi de la pomme de terre de consommation, pas de la pomme de terre d'industrie. Donc on est aussi sur des variétés qui ne sont pas les plus productives déjà dès le départ. On part déjà avec un petit peu d'handicap là-dessus. Mais malgré tout, à même variété... on va dire même principe de fonctionnement, à la différence qu'il y en a un qui va irriguer, l'autre qui va pas irriguer, allez, peut-être que celui qui va irriguer va faire 10% de plus, quoi. Voilà. Sur mon secteur là, je pense à une variété où j'ai un voisin qui irrigue cette variété là, il fait pas forcément beaucoup plus que moi, sachant qu'il est en conventionnel en plus. Il y a une dizaine de pourcents, ouais, c'est ça.
Dernière question sous forme de boutade, mais qui n'en est pas une finalement, totalement. Ce qui va demain peut-être changer les pratiques agricoles, c'est que McDo commence à faire un menu lentilles pois chiches pour que ça fonctionne.
Oui, le steak lentilles pois chiches avec une salade verte bio à McDo, bah oui, ça va faire changer les pratiques. C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, si on veut des changements de pratiques, c'est malheureusement les industriels qui ont la moitié de la clé, puisque la restauration hors domicile aujourd'hui, je ne sais plus c'est combien de pourcents, mais ça dépasse les 20%, je crois. La restauration hors domicile, c'est-à-dire, c'est pas forcément manger à la cantine pour ses gamins. Hein. Restauration hors domicile, c'est aller se faire plaisir un soir au restaurant, aller s'arrêter, prendre un sandwich sur la route, ça s'appelle de la restauration hors domicile. Voilà, on est à, je crois, plus de 20% aujourd'hui en France. Et rien que ça, vous allez dans un restaurant, moi qui suis producteur bio, représentant bio et tout le tralala, j'essaie de faire attention quand je vais dans un resto. Bon, je suis sur l'autoroute, je m'arrête sur le resto de l'autoroute, bon, bah, j'ai pas, je prends ce qu'il y a. Mais tiens, c'est bizarre, ah là, il n'y a pas de bio du tout. Ah là, celui-là, il y a un petit truc bio. Ah bon, c'est le vin. Ok, d'accord. Là c'est la ligne 20, ça c'est le plus simple. Hein. Voilà. Ah tiens, lui il a fait des lentilles bio ou des pâtes bio parce que. Enfin, voilà. Et, mais voilà, c'est insignifiant aujourd'hui, quoi. Et la problématique c'est d'amener les gens vers ça. Et ça c'est très compliqué et il n'y a qu'un seul moyen, c'est leur communication.
Michel Delisle, agriculteur bio de la ferme des Blancs Moutons dans le Douaisis. Agriculture entre sécheresse et inondation. Un sujet de Hervé Dujardin pour Radioscape Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.